La parole des contes avec Anne Wong.
Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour et bienvenue à notre émission hebdomadaire La parole des contes. Vous souvenez-vous, chères auditrices, chers auditeurs, la fois la précédente, nous avions exploré le dragon au Tibet. La bête à sept têtes, le drac. Et du Tibet, nous sautons en Chine, où nous allons explorer la bête à neuf têtes. Mais vous allez voir, ces neuf têtes sont bien particulières. Et pour entrer dans cette atmosphère orientale et quitter nos a priori occidentaux, une petite musique va nous y aider et Yann va vous donner. Il était une fois un empereur qui avait trois filles. L'aînée et la cadette étaient déjà mariées. Seule la benjamine, prénommée Huangu, n'était pas encore promise. On disait qu'elle était tellement belle et tellement gracieuse que quiconque la verrait succomberait à son charme et en oublierait de se nourrir. Dans une grotte profonde, non loin du palais, vivait un monstre à neuf têtes qui sortait une fois l'an pour enlever des femmes. De ses prisonnières, il gardait les plus jolies pour son plaisir et les moins gracieuses pour son ventre. L'empereur avait interdit à la princesse, sa fille, de quitter le palais de peur que le monstre ne la capture. Ce jour-là, une troupe de théâtre arriva en ville. Enfermée dans sa chambre depuis longtemps, la princesse sauta de joie quand elle apprit la nouvelle. Elle quitta furtivement le palais et rejoignit la foule qui se dirigeait vers le lieu du spectacle. Soudain, une rafale de vent rouge se leva, sifflant violemment, et emporta toutes les femmes qui se trouvaient sur le chemin. Quand l'empereur apprit la disparition de la princesse, il fut mort d'inquiétude. Il ordonna à ses gens de rédiger une annonce et de l'afficher partout dans le pays. Voici le texte. « Quiconque trouvera la princesse obtiendra un pécule d'argent. » Quelques jours passèrent, personne ne vint réclamer la récompense. Affligé, l'empereur fit afficher une deuxième annonce. « Quiconque ramènera la princesse deviendra mon gendre. » En ville, les gens disaient en voyant l'affiche, « Cette fois, l'empereur est désespéré. »« Mais qui, hein, qui pourrait ramener la princesse d'entre les griffes du monstre à neuf têtes ? Ah, il vaut mieux rester vieux garçon toute sa vie que de courir ce risque. » Un vieillard qui s'était approché de l'affiche déclara à haute voix après l'avoir lue « Oh, ça c'est une belle occasion. Yu doit saisir la chance de la fleur de pêcher. » En l'entendant parler de Yu, tout le monde comprit qu'il pensait au jeune descendant de la famille Yao. Il était robuste, fort comme un taureau. Une grosse pierre pouvait éclater en mille morceaux sous son poing. Quand il lançait sa hache lourde de plus de 30 kilos, les plus grands arbres tombaient d'un coup. C'était aussi un homme bienveillant et attentif. Il avait perdu ses parents lorsqu'il était encore enfant. En raison de sa pauvreté, il n'avait pas pu se marier jusqu'à ce jour. Le vieillard continua. Yu peut sûrement réussir. Comme il disait ces mots, le jeune homme arriva. sa grande hache sur son épaule. Le vieillard lui montra la proclamation royale en lui tapotant l'épaule et lui dit « Yu, il faut saisir ta chance. Va, ne t'inquiète pas pour le souffle écarlate du monstre à neuf têtes. Il ne se déchaîne qu'une fois par an. » Yu hésita quelques secondes, puis demanda « Eh, l'empereur, tiendra-t-il sa parole ?» Le vieillard lui dit « Je t'accompagne au palais pour que l'empereur nous donne sa parole. » L'empereur, voyant devant lui un jeune homme fort et vaillant, et aussi poli et élégant, capable de sauver sa fille, l'empereur reprit espoir. Il lui promit de tenir sa parole. Yu se prosterna devant l'empereur, quitta le palais, le cœur gonflé d'espoir. Un garde, prénommé Daqing, lui emboîta le pas et lui annonça « Mon frère, je vous suivrai pour vous aider à sauver la princesse. » Yu accepta. Le lendemain matin, Yu partit dans la montagne pour couper des lianes sauvages jusqu'à la tombée de la nuit. Dans la soirée, il tressa les lianes pour en fabriquer une corde d'une longueur de 250 toises. Après avoir fini le tressage, il vérifia point par point la solidité de l'ouvrage avant de l'enrouler. Après cette journée de travail intensif, il s'endormit profondément près de la corde. Au premier chant de coq, Yu se réveilla. Bientôt, le soleil allait se lever. Yu avala précipitamment du riz de la veille, prit sa hache et la corde de liane sur son épaule et partit à grands pas en direction de la grotte du monstre à neuf têtes. Le garde Daqing attendait Yu devant sa demeure et le suivit. Yu, le robuste, marche devant. Daqing marche derrière. Dès leur arrivée à la caverne, ils nouèrent un bout de la corde de liane autour de la taille de Yu, l'autre bout autour d'un rocher. Daqing fit ensuite descendre Yu dans le gouffre. À une centaine de toises de profondeur, le vacarme assourdissant du monstre envahit la cavité, englouti par l'obscurité. Yu continua de descendre. Il tremblait dans le courant d'air glacial. Son corps robuste pouvait supporter la froideur. Il serra les dents, continua sa descente. Arrivé au fond de la fosse, il suivit une galerie. Au bout de la galerie se dressait un grand palais orné de colonnes de jade au toit couvert d'écailles de poissons reposant sur du cristal scintillant qui éblouissait les yeux. Il y avait là un grand hall empli d'une quantité de meubles et une fontaine à l'est du palais d'où jaillissait de l'eau claire. Yu ne pensait qu'à une seule chose, sauver la princesse. Il contourna le palais, entra dans une deuxième galerie. Le sol était jonché de squelettes et de crânes humains. Devant ce spectacle affligeant, il se promit de venger en hachant menu cette bête à neuf têtes. Mais où se trouvait le monstre? Et la princesse était encore vivante? L'urgence était de la secourir. Aussi, il la chercha dans les galeries les plus sombres. Dans un recoin obscur, il entendit sangloter une femme. Il se laissa guider par les pleurs et trouva une femme ravissante, ligotée derrière des barreaux. Il s'approcha d'elle et lui demanda « Êtes-vous un être humain ou un monstre ?»«
Je suis un être humain, je suis princesse. Le monstre à neuf têtes m'a enlevée et m'a forcée à devenir sa femme. Je préfère mourir que de devenir son épouse. C'est pour ça que je suis enfermée ici. Et vous, qui êtes-vous ?»
« Je suis venu pour vous sauver. » À ces mots, Yu tordit les barreaux à main nue et libéra la princesse. La princesse fut soulagée, mais elle craignait cependant de ne pas pouvoir s'échapper de la grotte. Elle dit à Yu, « Le monstre avale tout. Les femmes enlevées en même temps que moi ont toutes été tuées. Il ne reste plus que moi. » N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, je vais tuer le monstre. À cet instant, on entendit les grognements des petits monstres qui venaient en patrouille. La princesse demanda à Yu de se cacher à l'intérieur de la geôle et de refermer les barreaux derrière eux. Elle se mit à se lamenter. Les petits monstres ne remarquèrent rien et s'éloignèrent. Yu tordit à nouveau les barreaux et ils prirent la direction du palais pour sortir de la grotte. Comme ils apercevaient le monstre couché dans le palais et que Yu était sincère et vaillant, elle lui confia le secret de l'animal fabuleux. « Écoute, Yu, si les yeux du monstre sont ouverts, cela signifie qu'il dort. Au contraire, si ses yeux se ferment, il passe à l'état de veille. Maintenant, vois-tu, ses yeux sont fermés. Il ne faut pas faire de bruit et attendre qu'il rouvre les yeux pour remonter de la grotte. Ah, et une autre chose. On raconte que son point faible est la tache rouge qu'il a sur sa poitrine. Merci, princesse, je n'oublierai pas. Peu de temps après, le monstre ouvrait les yeux, donc il dormait. Les jeunes gens se ruèrent vers la sortie, Yu attacha la corde de liane à la taille de la princesse et tira un peu pour que Da Qing comprenne qu'il était temps de tirer pour la remonter vers le haut. Juste avant de remonter, la princesse donna un gage à Yu. Une bague d'or. Yu serra la bague dans sa main et regardait la princesse remonter vers la sortie. Son cœur battait fort dans sa poitrine. Au bout d'une heure, la corde redescendit. Yu comprit que la princesse était arrivée en haut, saine et sauve. Il attacha la corde à sa taille et tira sur la corde pour faire signe à Da Qing de le remonter. Et quand Yu arriva à mi-hauteur, il retomba dans l'abîme. Da Qing avait coupé la corde. En haut, Da Qing fit jurer à la princesse de dire à son père qu'il était son sauveur et qu'il l'épouserait. En bas, Yu ne fut pas blessé. Et avant de penser à une vengeance, il fallait tuer le monstre et ensuite s'échapper et peut-être trouver un moyen de sortie. Dans son palais, le monstre dormait toujours profondément, les yeux grands ouverts. Yu se demanda, on dit que ce monstre a 9 têtes. Et alors pourquoi n'en vois-je qu'une seule ? Bon. C'est tant mieux. Il s'approcha, lança sa hache et coupa la tête du monstre en un rien de temps. Aussitôt, une deuxième tête poussa immédiatement. Yu lança à nouveau sa hache, la tête tomba. Une troisième surgit sans tarder. Il la décapita encore et ainsi Yu coupa successivement 8 têtes. Et le corps du monstre restait intact, solide comme un roc, sans même perdre un poil. La 9e tête surgit rapidement, et à cet instant, Yu se souvint du secret que la princesse lui avait confié. Visa la tache rouge sur la poitrine du monstre, donnant ainsi le coup fatal. Le monstre mourut. Ouf ! L'odeur du sang du monstre se répandant dans le palais, les petits monstres accoururent et le trouvèrent baignant dans son sang. Ils encerclèrent Yu pour qu'il ne prenne pas la fuite. Jules Robuste brandit haut sa hache et la lança en un mouvement circulaire qui les décapita tous. Jules ne fut pas tranquille avant d'avoir fouillé tous les recoins du palais pour être sûr d'avoir anéanti tous les monstres, le grand à neuf têtes et tous les petits monstres. Il s'assit enfin sur un tabouret d'or pour reprendre son souffle. Aussitôt, il vit cligner deux petites lueurs dans l'obscurité. Il s'approcha et vit sur le sol un dragon décharné attaché à un poteau avec une chaîne reliée à un anneau qui lui traversait le nez. Jules lui demanda « Et pourquoi êtes-vous enfermé ici ?»«
Parce que j'ai sauvé beaucoup de gens des griffes du monstre à neuf têtes !»
Alors il m'a enfermé dans cette grotte. « Oh, s'il vous plaît, libérez-moi !» Il pleurait presque, ce petit dragon.
Dieu lui dit, « Si je vous libère, eh bien, en échange, vous devez me faire sortir de cette grotte. »
Le dragon accepta volontiers. Jules aussitôt brisa la chaîne d'un coup de hache, mais depuis longtemps enfermé, le dragon n'avait plus la force de s'envoler. Il fallait attendre le déluge de la cinquième lune pour qu'il reprenne son énergie et bénéficie de la montée des eaux.
« Mais c'est encore dans plusieurs mois !»«
Je vais mourir de faim dans cette grotte souterraine !» dit Yu.
Et le petit dragon le rassura. « Ne vous en faites pas, Yu. Je peux cracher des pilules magiques et en les avalant, vous resterez en vie. »
Arriva enfin le jour tant attendu. Il commença à tonner, venter, pleuvoir. L'eau monta rapidement dans le puits d'accès. Le dragon mit sur son dos et, porté par les flots, il surnagea jusqu'à la sortie de la grotte. Avant qu'il ne se quitte, le dragon, pour remercier Yu, lui donna sa tauge et lui dit « Prenez ma tauge, quand vous la porterez, vous serez invisible. Je vous souhaite bonne chance pour retrouver la princesse. »
Yu remercia le petit dragon, il enfila la tauge et courut au plus vite en direction du palais.
Au palais, Yu mit 3 jours avant de retrouver la princesse, car elle logeait dans la tour la plus haute. Et lorsqu'il fut arrivé devant elle, il ôta sa toge et montra la bague d'or à la princesse. Cette dernière, comblée de joie, s'en fut vite raconter toute l'histoire à son père.
Et l'empereur fut furieux d'avoir été abusé par Da Qing. Il fut condamné à 100 coups de bâton et chassé du palais pour toujours.
Le soir même, sous les lanternes rouges et les serpentins volants, la princesse et Yu se marièrent. Yu offrit sa tauge du petit dragon à l'empereur, qui leva son verre pour féliciter les mariés. Depuis ce jour, Yu ne se sentit plus seul et mena une vie douce avec sa belle princesse.
Ce conte chinois, Yu le Robuste, est terminé et nous quittons la Chine et nous allons donc en des pays qui sont proches de chez nous. Avec le conte du Drac, de Mère et de la belle Jeanneton. Il y avait une fois la fille d'un laboureur. La maison de son père était proche du rivage. Le jardin faisait terrasse sur le bord de la mer. Là, sur le bord des eaux, tout auprès des vaisseaux. Cette fille, on l'appelait la belle Jeanneton, belle et fraîche comme l'aurore. Un jour qu'elle se baignait, pour le grand chaud qu'il faisait, le drac, le roi de la mer, s'est présenté à elle. « Jeanneton, belle Jeanneton, un soir de ce printemps, je t'ai vue sur ce rivage. De toi, depuis ce jour, je suis rendu amoureux. Il faut que tu me suives à mon château, tu y seras ma seule reine. »
« Mais Drac, a dit Jeanneton, je suis la fille d'un paysan. Ta reine, ah, je ne peux pas l'être. »
Jeanneton, belle Jeanneton, j'ai pouvoir sur les eaux, j'ai donc maintenant pouvoir sur toi. Mais viens de ton gré dans mon château, je te donnerai des monceaux d'or, des montagnes d'argent.
Ni pour argent, ni pour or, tu ne m'auras jamais. Fille de paysan, je suis. Comment veux-tu que je sois reine ?
« Toute fille de paysan que tu sois, tu es cousine de l'arc-en-ciel. Il faut que tu sois reine. Et sois-le de bon gré, puisque j'ai pouvoir de t'y contraindre.
Drac, sur mon cœur, tu n'as pas de pouvoir. Je suis fille de campagne et suis chère baptisée. Jamais, jamais, jamais je ne serai la femme du drac. » Le drac a enlevé la Jeanneton, la belle Jeanneton, l'a emportée dans son château tout au fond de la mer. Ce château est si beau, de corail rouge et de cristal poli, que si le roi passait devant le perron, il aurait désir d'y entrer. Et si la reine le voyait seulement d'une lieue au loin, elle prendrait envie d'y habiter pour toujours.
Et le drac n'a rien pu sur le cœur de Jeanneton.
Drac, nous ne sommes pas de même race. Tu n'es pas de l'espèce des chrétiens. Ton or ne changera pas la chose et ton château n'y fera rien. Laisse-moi retourner chez mon père.
Chez ton père, tu ne retourneras pas.
Mais j'accepte que tu puisses courir sur l'onde.
Le drac a pris un anneau d'or. Il l'a passé au pied de la belle Jeanneton à son joli pied gauche. Il y est arrivé à grands coups de marteau. Puis il a pris une chaîne d'or et à cet anneau l'a attaché. Voilà Jeanneton à la chaîne. Et le drac chante sa chanson.
Forte comme barre d'acier, fine comme un de tes cheveux, et longue, longue, longue de 7 lieues.
Cela fait, le drac a craché par terre, a passé sa patte par-dessus, il a ri. Comme le drac sait rire, puis il a dit à Jeanneton,
« Mon château n'est pas une prison. Va, va courir les eaux de la mer, tout le royaume où j'ai pouvoir. Quand tu seras las de courir, tu diras seulement,
« Drac, drac, tire la chaîne, en la mer me ramène,
et tu te retrouveras aussitôt au château. »
Et les choses sont allées comme le drac l'avait dit,
et comme Jeanneton l'avait juré. Le cœur de Jeanneton est resté. Chaque matin, elle est sortie sur les ondes de la mer. Elle a couru à 700 lieues de loin, et plus loin, elle aurait couru aussi si cette chaîne avait été plus longue. Le soir, puisqu'il fallait, elle rentrait au château. Ce qu'elle aimait, c'était d'aller regarder le jardin de son père. Le pêcher de vigne qui penche sur la planche de laitue, et le rossignol y chante, la margelle du puits que la corde a usée, et le buis des rameaux, et le pied de citronnelle. Ah, si jamais je pouvais reprendre terre. Si quelque hardi garçon venait me délivrer, qui serait ensuite compagnon de ma vie. Si vers la maison de mon père et les abeilles, le verger, débarrassé de la chaîne, je pouvais m'en aller un soir. Et un soir, tout juste comme elle se disait cela, courant dessus la mer jolie, elle a vu devant elle s'avancer un navire. Quel fin navire, tout travaillé en bois d'érable et tout relevé d'or. Les cordages étaient de soie rouge et les voiles de satin blanc. C'était celui que montait le fils du roi de France, le plus haut roi de toute la terre. De loin, Jeanneton et ce fils de roi se sont regardés. Et de près, ils se sont salués. Le fils du roi, alors, lui a parlé. Il parlait le français aussi doux qu'un violon. Lui a demandé qui elle était, comment elle était sur les eaux. Et Jeanneton a répondu, « Mon père est laboureur de terre et n'a de fille que moi. Le drac m'a enlevé sur le bord de la mer, sur le bord de ses ondes, et il me tient en son pouvoir, lié aux pieds par une chaîne d'or. » Là-dessus, la voix lui a manqué. Elle n'a pas pu parler davantage. Elle n'a su ce que ses yeux ont dit au fils du roi. Et lui, avant qu'elle ne disparaisse, il n'a pas pu non plus lui jurer qu'il ne vivrait plus que pour la délivrer. Tout s'est dit dans les yeux. Dans ce regard d'un seul instant, ils se sont entendus. Le fils du roi a pensé, « Je sais que je l'aimerai, même quand je serai mort, si c'est donné au trépassé. » Elle, sans autre, peut être ma reine. Et quelle passion me tient de la revoir. Et elle, de son côté, mon cœur sait bien qu'il m'aime. C'est notre sort écrit au ciel. Nous sommes pour être mari et femme. Mais cela sera-t-il sur terre? Moi, je suis au pouvoir du drac. Et si de son épée claire mon ami doux me délivrait jamais, s'il me ramenait des ondes au jardin de mon père, reste que je suis la fille d'un paysan. Pourrait-il me prendre pour femme? Cette semaine, pendant cette semaine, ils se sont cherchés. Pendant 7 mois, ils ont désespéré. Assis sur le bordage à l'avant de la nef, le fils du roi laissait ses yeux errer au loin, entre le flot et la nue. Peut-être que je ne la reverrai jamais plus en ce monde. À cette seule idée, j'ai tristesse à mourir. Et elle, à la nuit faite, en attend ses cheveux, il se peut, se disait-elle, que jamais je ne le revois. Ses amitiés, sa compagnie, je ne les aurai pas sur terre. Oh, comme cela est dur! Les jours, les saisons ont passé. Tout appesanti par la peine. Le drac tenait toujours la belle rivée à son château par cette chaîne d'or.
« Jeanneton, belle Jeanneton, ne vas-tu pas à la fin t'en résoudre? Il n'est pas d'autre sort pour toi. Il te faut être la femme du drac. »
« Je ne sais pas quel sera mon sort. » Mais ce que je sais, ce que j'ai dans le cœur, et le drac et moi ne serons jamais une même chair. La femme du drac, je ne la serai jamais.
Ah, Jeanneton, trop longue je t'ai laissé la chaîne. Crois-tu me braver plus longtemps? Si tu veux voir encore le jardin de ton père ce soir, va revoir ton dernier soleil. »
La belle y est allée, pleurant de ses deux yeux. Et sur le rivage de la mer, tout à coup, elle a vu venir le fils du roi.
Il galopait sur son grand cheval blanc, de si fière contenance.
Il a vu son ami. Il a poussé le cheval dans les ondes. Il a volé jusqu'à sa belle pour couper la chaîne du drac.
Il a levé son épée d'acier clair. « Si vous ne la tranchez d'un coup, » a crié Jeanneton, « c'est fait de moi, c'est fait de nous. Le drac m'entraîne en son château et nous ne nous reverrons plus jamais. »
Alors le fils du roi a porté un tel coup que la chaîne a sauté.
Il a saisi son ami, l'a enlevé à lui, entre ses bras la prise. Dans l'instant, le cheval blanc les a mis au rivage. Ils sont à terre, sous les grands pins pareils à des sombres étangs, où passe le ray d'or rouge, le ray de gloire venu du ciel. Et là, à terre, le drac n'a plus pouvoir.
Or la mer s'arrête la puissance du roi de la mer. Du rivage au grand pin, ils sont allés au jardin du père de la belle. Puis du petit jardin, le cheval a volé au château de Paris. Là tient sa cour le roi de France. Voyant la belle, le roi l'a saluée. L'approchant, il l'a embrassée.
« Faites les noces !» a-t-il dit à ses gens, et faites-les bien grandes. Aux amours, faut se rendre.
Chers auditeurs, chères auditrices, merci de nous avoir écoutés jusque-là et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur le site de la radio. Et si ces coups ont su vous plaire, eh bien, à la semaine prochaine, car ça en vaut la peine.